Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose particulière. Je voudrais laisser l'Évangile de côté et vous entretenir quelque peu sur les âmes du purgatoire, sur cette Église que l'on appelle l'Église souffrante, sur celles qui sont mortes en état de grâce, mais qui doivent encore expier les peines dues à leurs péchés. On savait que ce lieu du purgatoire est donc un lieu que Dieu a prévu pour les âmes qui n'auraient pas tout expié sur cette terre. Le péché, certes, a été pardonné, mais l'injustice commise doit être expiée. Si elle ne l'est pas faite sur la terre, elle sera faite donc au purgatoire. Nous pouvons obtenir les plus grandes grâces de Dieu par le moyen des œuvres de miséricorde. Et saint Thomas d'Aquin nous enseigne que la miséricorde envers les fidèles trépassés est plus agréable à Dieu que celle exercée envers les vivants. Saint François de Sales nous dit: dans cette seule œuvre de miséricorde envers les âmes, du purgatoire donc, sont renfermées les 13 autres œuvres de la miséricorde, corporelle ou spirituelle. Et le cardinal Bellarmine, lui, prêcha publiquement que celui qui intercède pour les âmes du purgatoire et leur fait du bien accomplit une plus grande œuvre que s'il faisait les plus riches largesses à un pauvre de ce monde. Un jour, notre Seigneur était apparu à la vénérable Marie Lastase et il lui dit: « Tu ne saurais faire rien de plus agréable à Dieu que de venir au secours de ces âmes du purgatoire. » Si donc Dieu a un grand désir de leur délivrance, c'est qu'il a pour ces âmes un amour ineffable et que leurs souffrances sont immenses. Aucune langue humaine ne peut exprimer la douleur que doivent endurer ces âmes au purgatoire. Saint Thomas et saint Augustin nous disent que le moindre tourment du purgatoire est plus grand que la plus cuisante douleur sur la terre, excepté, bien sûr, celle que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu endurer pour nous ici-bas. Sainte Marie-Madeleine de Pazzi eut un jour la vision des souffrances des âmes du purgatoire. Et ensuite elle dit: « Eh bien que toutes les souffrances et tous les tourments des martyrs et le plus grand feu sur la terre semble un jardin de délices en comparaison des peines du purgatoire. » Elles sont dans ce feu, ne pouvant rien pour elles. Elles ont faim de Dieu, elles ont soif de Dieu, elles ont la fièvre de Dieu. Bien sûr, nous ne pouvons pas comprendre, parce que notre connaissance de Dieu est bien inférieure à ces âmes du purgatoire. Elles se rendent compte, et donc cette séparation avec Dieu leur cause une peine terrible, d'une part, mais d'autre part, les peines des sens qu'elles endurent dans le purgatoire. Aucun pauvre n'a autant besoin de l'aide d'autrui que ces âmes qui sont complètement hors d'état de céder elles-mêmes. Elles ne peuvent ni faire pénitence, ni mériter, ni satisfaire, ni gagner d'indulgence. Elles ne peuvent plus rien pour elles. Elles ne peuvent qu'attendre passivement qu'un jour elles puissent être délivrées. Elles sont privées des sacrements, elles sont privées de tout secours. Saint Antonin nous rapporte qu'un malade en proie à d'excessives souffrances, demandait avec larmes la délivrance de ses maux. Et un ange lui est apparu et lui dit, « Eh bien, je suis envoyé de Dieu pour te proposer ce choix. Tu peux choisir entre une année de souffrance, encore, puis entrer directement au ciel, ou un jour de purgatoire. » Ce malade souffrait tellement qu'il décida tout de suite, « Eh bien, je préfère un jour de purgatoire qu'une année encore de souffrance si atroce. » Et il fut exaucé, il mourut. Et au bout de quelques instants, l'ange est venu rendre visite à cette âme en purgatoire. Et à peine cette âme a vu l'ange qu'il s'est dit, « Vous m'avez trompé. Vous m'aviez dit que je ne resterai qu'un jour. » Et ça fait bientôt 20 ans que je suis dans ce purgatoire. Et l'ange lui dit, « Eh bien, tu te trompes. C'est l'ardeur de ces douleurs qui te fait prendre le temps si long. Il n'y a que quelques minutes que tu viens d'entrer. Ton corps, ton cadavre est encore chaud sur son lit de mort. » Alors le malheureux demande à l'ange, « Oh, eh bien, je préférerais, si c'était possible, de retourner sur la terre et souffrir une année, même plus, s'il faut, que de rester plus longtemps dans le purgatoire. » Et cela lui fut accordé. Il ressuscita. Et à tous ceux qui venaient le trouver, il les invitait à supporter courageusement tout ce qu'ils pouvaient supporter sur la terre pour faire le purgatoire sur la terre, tant il avait souffert ces quelques instants au purgatoire. Cela nous dépasse, c'est une autre réalité. C'est le monde de l'au-delà. Puisque Dieu aime tant les âmes du purgatoire et désire leur délivrance et que leurs souffrances sont si terribles, Dieu accorde des grâces toutes particulières à ceux qui viennent en aide à ces âmes du purgatoire. De nombreuses âmes ont obtenu des grâces insignes pour avoir prié pour ces âmes du purgatoire. Grâce de sanctification. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce petit ouvrage, le manuscrit du purgatoire, que je vous recommande vivement. Eh bien, on voit là cette religieuse qui est apparue à sa supérieure. Comment cette religieuse l'a sanctifiée? Et en échange, cette religieuse priait pour la délivrance et le soulagement de cette âme. Bien, ces âmes du purgatoire peuvent beaucoup pour notre sanctification. Le père Alphonse Cortési, jésuite, avait longtemps à combattre de violentes tentations contre la pureté. Il avait employé tous les moyens qu'il connaissait pour essayer de lutter contre ces tentations sans pouvoir y arriver. Alors un jour, il s'est adressé à la très sainte Vierge Marie en la suppliant de le délivrer de cette tentation. Et la Sainte Vierge lui a dit, « Eh bien, prie pour les âmes purgatoires, délivre-les et tu seras délivré. » Et en fait, après cela, il fut délivré de ces violentes tentations. Oui, mes bien chers fidèles, il faut que nous ayons une dévotion envers ces âmes du purgatoire. Elles font partie de la communion des saints. Ce sont des âmes qui sont assurées du ciel. Elles iront un jour au ciel. Eh bien, tâchons de nous faire des amis dans le ciel, de celles qui s'occuperont de nous, qui nous obtiendront de nombreuses faveurs. Une fois auprès du bon Dieu, elles intercéderont pour nous, elles n'oublieront pas les bienfaiteurs. Et que pouvons-nous donc faire pour ces âmes du purgatoire? Eh bien, nous pouvons offrir toutes nos œuvres, tous nos mérites, bien sûr, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, qui saura à qui faire profiter. Nos messes, qui sont les moyens les plus puissants pour la délivrance des âmes du purgatoire. Nos messes, nos communions. Et puis, d'après ce que disent les âmes du purgatoire, le chemin de la croix serait le moyen le plus efficace après la messe. Le chapelet en commun, le rosaire, les aumônes. Et bien sûr, gagner les indulgences. Les indulgences plénières appliquées aux âmes du purgatoire les délivrent, même si elles devaient rester encore 20 ou 30 ans en purgatoire, elles les délivrent de ce feu. Et des indulgences plénières, nous pouvons gagner tous les jours. Par exemple, le chapelet en commun pas le chapelet seul, le chapelet en commun ou en famille ou devant le Saint-Sacrement nous vaut une indulgence plénière. Et que nous serions bien pas malins de ne pas profiter, voyez, de délivrer ces âmes. Mettons-nous un peu à leur place. Le chemin de croix aussi nous vaut une indulgence plénière. Ou la lecture pieuse de la Sainte Écriture pendant une demi-heure, avec foi, aussi nous vaut une indulgence plénière. Mais il y a aussi toutes ces indulgences partielles que nous pouvons gagner à tout instant dans la journée, par des actes d'amour, par des actes de foi, par des actes de conformité à la volonté du bon Dieu, par l'acceptation de tout ce qui nous arrive, des difficultés, des épreuves, des contrariétés. Tout cela valent des indulgences partielles. Il faut bien sûr offrir. Il faut avoir l'intention de gagner les indulgences partielles. C'est pourquoi il est bon que chaque matin, nous ajoutions à notre prière du matin l'intention de vouloir gagner toutes les indulgences possibles dans la journée. Connaissez bien sûr les conditions pour gagner les indulgences plénières. La communion et la confession dans les 8 jours qui précèdent ou qui suivent l'œuvre à accomplir. Et c'est pour ça que si vous vous confessez chaque 15 jours, vous êtes assuré de gagner tous les jours les indulgences. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire pour cela. Bien sûr, il faut les autres conditions, il faut accomplir l'œuvre. Il faut manifester l'intention aussi de gagner l'indulgence. Et il faut être détaché de tout péché véniel. N'avoir aucune attache à un péché véniel. Voilà. C'est différent d'être détaché des péchés véniels puis d'en commettre, malheureusement, contre notre volonté. Voyez ? Mais ce qu'il faut, c'est d'être détaché. Eh bien, si nous avons ces conditions, nous pouvons gagner ces indulgences plénières. Alors, profitons, et nous serons d'une grande utilité. Et Dieu est spécialement touché de la délivrance des âmes du purgatoire. Il y a des saints qui ont obtenu des grâces que par les âmes du purgatoire. Quelques considérations, mes bien chers fidèles, qui doivent nous inviter à avoir cette dévotion envers les âmes purgatoires. Ce mois leur est consacré. Nous avons profité au début de ce mois par la visite des cimetières. Eh bien, profitons encore tous les jours de notre vie. Et un jour, il y avait une âme dans le purgatoire pour laquelle la famille priait beaucoup, offrait tout ce qu'elle pouvait offrir pour la délivrance de cette âme, gagner des indulgences plénières qu'elles appliquaient pour cette âme. Et un jour, cette âme est apparue, encore dans les souffrances. Alors, ils étaient tous surpris. Comment est-ce possible, avec tout ce que nous avons prié pour vous, les indulgences plénières que nous avions gagnées pour vous, comment ça se fait que vous n'êtes pas encore délivrés? Et elle a avoué, en disant que, parce que quand elle était sur la terre, elle n'a pas profité. Elle n'a pas attaché d'importance aux indulgences plénières, et c'est pourquoi toutes les indulgences que les autres ont gagnées ont été données aux autres âmes, mais pas à elles. Donc, ne négligeons pas ces moyens que le bon Dieu nous donne. Profitons, afin que si une fois nous devions passer par le purgatoire, malheureusement, essayons de le faire sur la terre, mais si nous devons passer par le purgatoire, que ceux qui prient pour nous, eh bien, nous soient profitables. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie, elle qui a tant à cœur de délivrer ses âmes, bien donnons-lui d'ailleurs tout, passons tout par ses mains, qu'elle délivre les âmes de nos parents, de nos familles, de ceux qui nous sont chers, et puis de toutes celles qu'elle désire délivrer. Aussi demandons à Notre-Dame que nous puissions profiter, que nous ne laissions pas passer toutes ces occasions de faire des œuvres de miséricorde envers ces âmes des fidèles trépassés. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, après d'entrer dans cette période du carême. Et ce n'est pas sans raison que l'Église nous fait lire cette belle épître de Saint Paul, que l'on appelle aussi l'hymne à la charité. Pourquoi cela? Eh bien parce que le carême est un temps particulier pour nous faire grandir dans la vertu, dans toutes les vertus. Et saint Paul nous montre dans cette épître qu'il ne peut y avoir de vraie vertu sans la vertu de charité. Et il a des exemples qui sont étonnants. Par exemple, dit-il, si j'ai la foi, une foi à transporter les montagnes, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Eh bien, on peut avoir la foi à transporter les montagnes sans avoir la charité. Et à ce moment-là, on est comme une cloche qui sonne, une cymbale retentissante. Ça ne sert de rien. Heureusement que ça vient de la bouche de Saint Paul. Ça, on est tranquille. Si j'ai le don de prophétie, le don de prévoir les événements à venir, n'est-ce pas un don divin? Eh bien, on peut avoir le don de prophétie sans avoir la charité et on n'est rien du tout. Même si j'ai la science divine, on peut avoir la science divine sans avoir la charité et ça ne sert de rien. Même si j'ai le don des langues, parler les langues des hommes et des anges, eh bien, on peut l'avoir encore sans avoir la charité. Et Saint Paul va encore plus loin. Même si je donne tous mes biens en aumône, n'est-ce pas là un grand signe de charité? Donner tous ses biens en aumône. On peut donner tous ses biens en aumône et pas avoir la charité, et ça ne sert de rien. Même si je donne ma vie pour les autres, notre Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. On peut le faire, au dire de Saint Paul, sans avoir la charité. Tout cela ne sert de rien sans cette vertu de charité. Et c'est pourquoi l'Église, eh bien, veut nous inviter à grandir dans cette vertu que nous avons reçue en germe à notre baptême, que nous avons peut-être perdue, mais que nous pouvons retrouver. Et Saint Paul nous dépeint cette vertu dans toute sa beauté, dans toute sa pureté. Il en fait un portrait sur lequel il répand les couleurs et les traits de cette vertu. Il a soin d'établir entre toutes les parties de cette image une parfaite harmonie. Saint Paul commence par nous présenter une qualité de la charité qu'il regarde comme la source de tout bien. La charité, nous dit-il, est patiente. Dans le livre des Proverbes, on peut lire ceci. Celui qui est patient fait preuve d'une haute sagesse. Mais l'impatient signale sa folie. Et les pères de l'Église, pour nous aider à comprendre un peu ce qu'est cette vertu, aiment à prendre des images. Et ils comparent cette qualité de la charité à une place forte, à une ville fortifiée, à un château fort, ou à une armure impénétrable, à une tour qui résiste à tous les assauts, à une flèche qui tombe sur une flèche qui, chaque flèche qui tombe sur cette âme patiente se brise aussitôt sans troubler le repos de cette âme. L'homme patient est comme celui qui se trouve sur le port. Il goûte un calme profond, à la différence de ceux qui sont sur les vagues de la mer et qui sont ballottés. Le dommage causé ne peut émouvoir l'homme patient. Même les outrages ne peuvent ébranler l'homme patient. La patience s'appelle aussi longanimité, parce que l'homme patient a une âme d'une vaste étendue, c'est-à-dire une grande âme. La longueur, la grandeur, c'est un peu synonyme. Cette qualité vient de la charité et donne de grands avantages pour ceux qui la possèdent. La charité est pleine de bonté, ajoute Saint Paul. Les hommes qui sont patients pour pouvoir mieux se venger. Eh bien, ce n'est pas la patience, ce n'est pas cette qualité de la charité. Si la charité est douce et généreuse, ce n'est pas pour attiser la colère dans les âmes irritées, mais pour apaiser, pour éteindre cette flamme. Oui, la charité répand la paix autour d'elle. Elle est pacifiante. Ce n'est pas seulement par une généreuse patience, c'est par ses soins et ses encouragements que la charité soulage et soigne les plaies des cœurs ulcérés par la colère. La charité répand comme un certain baume sur les âmes qui sont tout encore irritées par leur passion. La charité n'est pas envieuse. On pourrait être patient et envieux, mais ce ne serait pas la vraie patience. Et la charité, eh bien, nous fait éviter cet écueil, nous fait éviter ce danger. La charité n'agit pas avec timidité, pardon, avec témérité, ni avec timidité, bien sûr, parce que c'est un défaut. Elle n'agit pas avec précipitation. L'homme qui possède la charité est sage et posé. Il marche paisiblement dans la vie. La précipitation est le propre des mauvais penchants, de ceux qui sont soumis aux passions. Alors ils sont comme esclaves, ils sont comme soumis et tiraillés par ces passions. Eh bien, la charité va les libérer de cela. La charité va donner la paix du cœur, une paix qui est incomparable avec la précipitation et les excès. La charité veille sur notre âme comme un bon agriculteur qui veille sur son champ et qui ne laisse pas sortir les mauvaises herbes. Saint Paul poursuit en nous disant « La charité ne s'enfle pas d'orgueil. » C'est-à-dire que la charité extirpe l'orgueil du cœur, comme d'ailleurs les autres vices. Saint Paul non seulement nous décrit les qualités de cette vertu, de charité, mais aussi les défauts qu'elle n'a pas. La charité nous mène au bien, dit-il, et elle extirpe le mal. Bien plus, elle ne laisse pas aux mauvais germes la possibilité de naître. La charité les enlève immédiatement. Saint Paul ne dit pas « La charité est jalouse, mais elle étouffe la jalousie » ou bien « La charité est hautaine, mais elle est un défaut dont elle se corrige. » Non, il nous dit « La charité n'est ni jalouse, ni inconsidérée, ni gonflée d'orgueil. » En somme, la charité est si éloignée de ses défauts qu'elle n'est pas offensée par tout ce qu'elle souffre pour celui qu'elle aime. Et là, on pourrait citer de nombreux exemples. Par exemple, la maman qui s'occupe de ses petits-enfants. Bien souvent, les enfants sont ingrats. Ils maugréent, ils pleurent, alors que la maman fait tout pour le calmer. Et pourtant, elle passe par-dessus. Elle ne compte pas son temps. Elle ne compte pas ses heures. Elle ne compte pas ses soins qu'elle apporte aux petits. C'est une image de la charité. La charité n'est pas ambitieuse. Elle ne cherche pas ses propres intérêts. Elle ne s'irrite pas. Elle ne pense pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. La charité souffre tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voyez par exemple combien les hommes du monde affrontent toutes les difficultés, non seulement sans honte, mais avec orgueil, pour étancher la soif du gain qui les dévore. Eh bien, la charité fait bien davantage, la vraie charité. Plus un homme possédera la charité, moins il reculera devant les affronts. Il ne rougira pas de sa patience. Et nous avons de nombreux exemples héroïques tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais aucun de ces exemples n'a égalé celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, qu'il est bon de méditer sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur ce mystère, sur sa vie. Essayez de découvrir la pensée de notre Seigneur. Saint Paul nous dit que notre Seigneur a été couvert de crachats. Mais ça, il le prévoyait. Hein. Notre Seigneur a été souffleté par qui ? Par des misérables esclaves. Eh bien, notre Seigneur ne voyait pas là de déshonneur, mais ses affronts étaient pour lui autant de triomphes dont il se glorifiait. Il a d'ailleurs gardé au ciel les plaies des mains, des pieds du côté. Pour lui, c'est un triomphe. Il s'en glorifie. Et saint Paul dit, je me glorifie aussi de mes infirmités. L'amour de notre Seigneur pour son Père et pour nos âmes l'a fait triompher de toutes ses souffrances. La charité, en effet, se croit à l'abri de l'humiliation. Voyez par exemple un père de famille qui est estimé, qui est honoré dans la société, qui a une grande place, et qui pourtant, lorsqu'il rentre chez lui, il joue avec ses petits-enfants, il bégaye avec eux. Et les témoins qui le verraient faire cela ne s'étonneraient pas. Au contraire, ils s'émerveilleraient de voir la bonté de ce Père. Tout en ayant cette place si élevée dans la société, se mettre à la portée de ses petits. Ou bien ce Père qui garde sa patience pour la correction de ses enfants. Ses enfants qui retombent si souvent dans les mêmes fautes. Il est toujours là, prêt à les corriger. Il prend soin d'eux. Il réprime leur mauvaise conduite. Il ne rougit pas de toute la peine qu'il se donne pour ses petits. Eh bien, la charité est au-dessus de l'humiliation. Elle a comme des ailes d'or pour cacher tous les défauts de celui qu'elle aime. La charité ne connaît pas d'affront. Ou nous pourrions bien prolonger sur cette si belle vertu de la charité, c'est la seule vertu qui restera. Toutes les autres vertus disparaîtront. La foi, l'espérance disparaîtront à notre mort. Mais la vertu de charité demeurera. Au contraire, elle sera encore beaucoup plus grande lorsque nous serons face à face de Dieu. Alors, mes bien chers fidèles, c'est l'occasion de demander aujourd'hui, avec un grand désir, avec une grande foi, à notre Seigneur, si nous avons quelque peu la charité, de l'augmenter, et si nous ne l'avons pas, eh bien, de nous l'obtenir. Imitons cet aveugle de l'Évangile, qui a supplié, malgré les réprimandes des disciples et de ceux qui précédaient notre Seigneur, il a supplié notre Seigneur. Il avait confiance que notre Seigneur ne l'abandonnerait pas, et bien faisant de même, suppliant notre Seigneur, qui nous fait un commandement de la charité, demandons-lui, bien de nous donner la charité si nous ne l'avons pas, et de la faire croître en nous. Et méditons cet épître d'aujourd'hui, et essayons de voir si nous sommes conformes à ce que décrit saint Paul de cette vertu de charité. Demandons aussi à la très sainte Vierge Marie, cette bonne et tendre mère, qu'est-ce qu'elle ne refuserait pas, qu'est-ce qu'elle n'accorderait pas à ses enfants, qui lui demandent avec humilité, avec désir, surtout cette grâce de la charité pour aimer davantage le bon Dieu et pour aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Alors demandons aujourd'hui à l'occasion de cette sainte messe et afin que cette vertu puisse grandir tout au long de ce carême et qu'elle puisse donner la valeur à toutes nos œuvres qui ne seraient rien sans cette vertu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans cette parabole que l'Église nous rapporte en Évangile aujourd'hui, notre Seigneur nous parle de la malice de l'esprit impur et de ses ravages dans l'âme. Et hélas, on ne peut que le constater combien ce démon impur exerce de tyrannie sur les âmes de toutes parts. C'est ce qu'il y avait au temps de Noé. Le monde était devenu corrompu. Et alors Dieu châtia tous ces hommes qui s'étaient adonnés à tous les désordres. Saint Alphonse de Ligorie nous dit, pour presque tous ceux qui sont en enfer, sont damnés à cause de ce péché de l'impureté. Oui, ce péché de l'impureté traîne quantité d'âmes en enfer. C'est un sujet triste à traiter, et comme nous le dit saint Paul, Ces choses ne devraient pas être nommées parmi nous. Cependant, c'est bien nécessaire, puisque ce vice, c'est la peste des âmes. Et il faudrait que nous ayons l'horreur de ce vice, et ainsi nous en prémunir. Ce vice de l'impureté fait à Dieu le plus sanglant outrage. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'il profane son âme créée à l'image de Dieu. Il profane l'âme rachetée au prix du sang de notre Seigneur. Cette âme qui a été si souvent nourrie du pain des anges. En somme, celui qui s'adonne à l'impureté frappe son âme de l'effigie du démon impur, l'âme qui a reçu la marque de Dieu au baptême. Ce péché, ce démon d'impureté profane aussi le corps qui est devenu par le baptême le temple du Saint-Esprit. Ignorez-vous, nous dit saint Paul, que votre corps est le temple de Dieu. Celui qui ose violer le temple de Dieu, Dieu le perdra. Vous ne vous appartenez pas, poursuit saint Paul, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez et portez Dieu dans votre corps. Et saint Bède, le Vénérable, nous dit, si vous voulez vous avilir et vous rendre méprisable, faites-le, mais épargnez Jésus-Christ. Épargnez notre Seigneur dont vous reconnaissez la présence en vous. On peut se représenter quel sacrilège ce serait que de profaner une église ou un crucifix ou des vases sacrés ou les saintes hosties. Eh bien, est-ce que ce n'est pas le même crime que de profaner notre âme et notre corps qui appartiennent à Dieu, qui ont été comme consacrés au jour de notre baptême, c'est-à-dire sanctifiés, tournés vers Dieu. Ce péché de l'impureté est un indigne mépris de Dieu. En fait, l'impudique préfère à Dieu une créature, et quelle créature, pour un honteux plaisir d'un moment. La grandeur de ce mépris doit se mesurer à la hauteur de la chute. Eh bien, au lieu d'aimer Dieu, la souveraine beauté, la bonté infinie, le pécheur tombe jusqu'à ce degré d'aimer la corruption. Il chasse Dieu de son âme pour mettre à sa place et adorer une idole de chair. Qu'ils sont donc insensés. Ce péché de l'impureté commis par les personnes mariées, c'est encore un sacrilège, car il viole la sainte institution du sacrement de mariage et ses lois sacrées. Même dans l'usage du mariage, combien ce péché est odieux à Dieu et opposé à ses adorables desseins. Le péché donnant, le péché contre nature. Sainte Brigitte aperçut en enfer beaucoup de personnes mariées, perdues pour l'éternité, pour avoir abusé du mariage. Qui dira, la malice et le nombre de temps de péchés secrets, solitaires, intérieurs, les attouchements, les regards, les désirs, avec leurs différentes espèces. Combien celui qui n'y prend pas garde n'en commet-il pas dans un jour? Et qui se confesse bien de tout cela? Saint Thomas nous dit qu'aucun péché ne réjouit autant le démon que le péché impur. Rien ne plaît à l'animal immonde comme la boue. Aucune vertu, nous dit saint Augustin, aucune bonté, aucune sagesse n'est compatible avec la luxure. Mais avec elle règne toutes sortes de perversités. Par ce péché, David est devenu homicide. Par ce péché d'impureté, le grand Salomon, qui a reçu une sagesse incomparable, s'est adonné à l'idolâtrie. C'est par ce péché que précipita dans le schisme Henri VIII. Il entraîna après lui tout son pays, l'Angleterre. Ce péché fit de lui un si cruel persécuteur de l'Église. Sainte Marie-Madeleine, qui avant d'être sainte était pécheresse, eh bien l'Évangile nous dit à son sujet qu'elle était possédée de 7 démons à la suite de ce vice de l'impureté. Saint Jean Chrysostome nous dit que l'infection, la corruption d'un tombeau n'est rien à comparaison de celle d'une âme livrée au vice impur. Craignons donc, mes bien chers fidèles, fuyons comme un mal horrible ce péché de l'impureté. Ayons l'horreur de ce vice. Redoutons-le à cause des ravages et de ses funestes suites. Et vous savez que Dieu châtie ce péché, non seulement de l'autre côté, mais déjà sur la terre. Il l'a d'ailleurs châtié déjà plusieurs fois ici-bas, de manière terrible, par exemple le déluge, qui a tué tous les hommes, qui a noyé tous les hommes, sauf Noé et sa famille, son épouse et ses enfants. Aussi Dieu fit descendre sur les villes de Sodome et de Gomorre et sur les 5 villes une pluie de feu et de soufre à cause de nouveau de ces péchés de l'impureté. C'est aussi ce péché de l'impureté qui anéantit presque toute la tribu de Benjamin. Et si vous lisez dans l'Ancien Testament la vie de David, que de misère David a enduré à la suite de ce péché de l'impureté, de son adultère. Mais aussi, quels seront les châtiments réservés à ces impudiques en enfer, dans cet étang de feu et de soufre, dans ces flammes ardentes, dans ces tourments épouvantables, mais qui seront éternels, qui ne finiront jamais. Quel malheur pour un faux et pour un détestable plaisir qui ne dure qu'un moment. Pour une action criminelle qui, loin d'assouvir les tyranniques exigences de la passion, excite et l'enflamme davantage, ces âmes se sont exposées de gaieté de cœur à la vengeance terrible et à ces supplices sans fin qu'ils sont insensés. Ce péché est terrible parce qu'il aveugle l'âme, il aveugle l'esprit. Ceux qui s'adonnent à ce vice ne craignent même plus Dieu, ne craignent même plus l'enfer. Et il n'est pas rare d'entendre ces impudiques plaisanter en disant « Oh, en enfer il fera bon chaud et on se retrouvera tous. » Insensés. S'ils pouvaient nous parler maintenant, ceux qui s'y trouvent déjà, ils nous effrayeraient par leur discours, par leur vision. Alors il nous faut résister à cela. Voyez ce qu'ont fait les saints pour triompher de ce démon impur. Saint Benoît, qui n'a pas hésité à se jeter dans un buisson d'épines, à se rouler dans ce buisson d'épines lorsqu'il était soumis à une forte tentation. Saint François d'Assise, qui s'est roulé dans la neige. Saint Bernard s'est jeté dans un étang glacé. Saint Eusébie et ses compagnes, au moment où une troupe d'infidèles envahissant leur monastère, se sont mutilés le visage et se sont défigurés afin d'exciter en eux l'horreur au lieu de la passion brutale. L'empereur Baudouin, prisonnier des Bulgares, a été tenté par la femme de leur roi. Et bien plutôt que de consentir, il se laisse torturer et même massacrer. Il devient le martyr de la chasteté. Le bon Dieu nous donne les remèdes contre ce démon de l'impureté. Car avec la grâce de Dieu et avec des efforts généreux, on peut chasser ce démon de l'impureté. On peut le fuir, on peut en triompher, bien sûr, mais il faut cette grâce de Dieu. Tout d'abord, il faut fuir l'oisiveté. L'oisiveté, c'est celui qui accepte toutes sortes de pensées dans son âme, dans son esprit. Pour un démon, pour un laboureur ou pour un travailleur que le démon tente, il y a 1000 qui tentent un oisif. Autre moyen, c'est de fuir le vin et la bonne chère. La distance n'est pas grande entre l'ivresse ou la gourmandise au vice de l'impureté. Il faut aussi fuir les occasions de péché. Veillez pour briser les attaches dangereuses, les affections sensibles et charnelles. Il faut avoir une extrême discrétion et réserve en ce qui concerne les visites, les cadeaux aussi, veillez. Il faut fuir aussi les théâtres, les compagnies et les lectures dangereuses, la télévision qui porte tant et tant à ce vice de l'impureté. Si vous voulez éviter un incendie, il faut vous garder d'approcher du feu les matières inflammables. Celui qui se mettrait dans les mauvaises compagnies, ou qui assistera à ces théâtres ou à ces mauvais films, fait comme celui qui jette de la paille dans le feu en disant « ne brûle pas ». C'est insensé. Il faut avoir une grande vigilance sur nos sens, sur les yeux et sur les mains. Les yeux et les mains sont des moyens extrêmement utiles, mais pour le mal comme pour le bien, selon l'usage que l'on en fait. Il faut aussi prier avec ferveur et continuellement. Il faut demander au bon Dieu de nous délivrer de ce vice terrible. Il faut aussi pratiquer ou fréquenter souvent les sacrements. Les sacrements qui sont les canaux de la grâce et de la vie chrétienne. Avoir une grande dévotion à Marie. Saint Maximilien Kolbe disait « En s'approchant de l'Immaculée, on se purifie ». Approchons-nous donc de la très sainte Vierge Marie et elle nous rendra de plus en plus purs. Aimons cette vertu de pureté. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tandis que les cœurs impurs ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils n'ont pas le goût des choses de Dieu. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie et à tous ces saints qui ont su si généreusement, si courageusement, lutter contre ce démon de l'impureté. Mandons cette grâce de toujours purifier davantage nos cœurs et aussi dans chacune de nos communions, demandons tout spécialement cette grâce à notre Seigneur présent en nous, qui vient en nous pour nous purifier, pour nous transformer. Aimons à recevoir les sacrements, à prier. Fuyons ce vice comme la peste. Lors des épidémies, les gens savent se tenir à distance de ceux qui ont contacté la maladie, eh bien aussi, c'est une maladie bien plus grave que celle de l'âme. Alors, sachons fuir ce qui pourrait nous engendrer ce vice de l'impureté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit, « Restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici, éveillez avec moi. » Puis s'avançant un peu, il tomba la face contre terre, il priait et disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il revint vers les disciples et les trouva endormis, et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller même une heure avec moi. Veillez, priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » S'éloignant encore pour la seconde fois, il pria, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau, et il pria pour la troisième fois en redisant les mêmes paroles. Alors il vient vers ses disciples et il leur dit, « Dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue, et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Il est là celui qui me livre. » Il parlait encore quand survint Judas, l'un des douze, et avec lui toute une foule munie d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Il avait dit, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Et aussitôt il s'avança vers Jésus en disant, « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, c'est pour cela que tu es venu. » Alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et ils l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père, et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, disant qu'il en doit être ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule, « Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples, l'abandonnant tous, s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Entré dans la cour, il s'était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. Bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés, finalement il s'en présenta deux qui déclarèrent, « Cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Et le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « Tu l'as dit, et même je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Maintenant, vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent, « Il mérite la mort !» Alors ils le lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant, « Fais le prophète, Messie, dis-nous qui t'a frappé !» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen !» Mais il nia devant tous en disant, « Je ne sais ce que tu dis !» Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit, et elle dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth !» Et de nouveau, il nia avec serment, « Je ne connais pas cet homme !» Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et ils dirent à Pierre, « Sûrement, tu en es, toi aussi, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole de Jésus qui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'emmenèrent et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, c'est ton affaire. » Jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de verser au trésor puisque c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour on appelle ce champ Aceldama, c'est-à-dire le champ du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie, et ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix les fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Cependant, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs ?» Et Jésus déclara, « Tu l'as dit. » Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous leurs témoignages contre toi ?» Il ne lui répondit pas un seul mot. Si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus appelé le Messie ?» Car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je alors de Jésus appelé le Messie ?» Ils dirent tous, « Qu'il soit crucifié !» Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais de plus en plus fort, il criait, « Qu'il soit crucifié !» Voyant qu'il ne gagnait rien, mais qu'au contraire, le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau et se leva, et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. » Et tout le peuple répondit, « Son sang sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, et il leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et ils lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne avec des épines et ils la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, il prit le roseau et il le frappait à la tête. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements, et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter la croix. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardaient. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et de même, les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient, Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix maintenant, et nous croirons en lui. Il compte sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voilà qu'il appelle Eli !» Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il l'emplit de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Voyons un peu si Élie viendra le sauver. » Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voilà que le rideau du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui reposaient ressuscitèrent, sortant de leur tombeau après sa résurrection. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant, le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi. Et ils dirent, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus. Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc et il le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à la porte du tombeau et il s'en alla. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ec dies quam fecit Dominus, voici le jour qu'a fait le Seigneur. Exultemus et letemur inia. Exultons et réjouissons-nous en ce jour. Aujourd'hui, notre Seigneur triomphe de la mort. Il reprend la vie. Mais quelle vie, une vie immortelle. Oh, il nous est agréable de nous rappeler ces moments. Mais que l'Église nous a fait revivre cette semaine et aujourd'hui encore. Après sa mort, le vendredi saint, notre Seigneur, comme vous le savez, a été enseveli par les soins d'Arimathie et de Nicodème. Et le samedi qui a suivi cet ensevelissement, par un luxe de précaution, impie et ridicule, les princes et les prêtres s'en vont sceller le sépulcre. On n'a jamais vu faire cela. Ils le font et ils vont même mettre des gardes au tombeau. À quel tombeau? Au tombeau d'un dieu. Eh bien, c'est un témoignage singulièrement précieux qu'ils nous rendent là. Sans le vouloir, bien sûr. Mais on voit très bien comment Dieu se rit de ses ennemis. Ils rendront témoignage de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'impossibilité de dérober le corps. Plus ils font d'efforts contre lui, plus ils rendent service aux croyants, plus ils rendent service à notre foi. L'âme de notre Seigneur, en quittant le corps le vendredi saint, qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle est descendue au limbe, consoler tous ceux qui attendaient, tous ces justes de l'Ancien Testament, ces prophètes qui avaient annoncé, qui avaient prédit toute la vie de notre Seigneur, ce Messie, le pauvre Jérémie qui en a souffert sur la terre. C'est pas toujours agréable d'être prophète. Eh bien, tout cela l'attendait. Et quelle consolation ça a été pour eux. Quelle consolation ça a été pour eux. Sage de notre Seigneur dans ses limbes. Et bien sûr, le jour à l'aurore du jour de Pâques, l'âme s'est rejointe à son corps et il est sorti triomphant. Il a rendu ce corps glorieux et immortel. Et il est sorti du tombeau sans briser, bien sûr, les scellés. Sans rouler la pierre, il est passé au travers de la pierre de par les qualités de son corps glorieux, de la même façon qu'il est sorti du Saint Bienheureux de la Sainte Vierge Marie. Alors nous disent les évangélistes, il se fit un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur, brillant comme l'éclair, renversa la pierre qui fermait le sépulcre et il s'assit dessus. À sa vue, eh bien les gardes qui, frappés de terreur, devinrent comme morts, nous disent les évangélistes. Et alors ils s'enfuirent pour aller raconter au prince des prêtres la merveille dont ils venaient d'être témoins. Et vous connaissez la fourberie de ces princes des prêtres qui font tout pour cacher ce mystère et qui vont jusqu'à payer une somme d'argent aux soldats afin qu'ils disent que les apôtres sont venus, que les disciples et les apôtres sont venus chercher le corps de notre Seigneur. Vous voyez bien le ridicule de cette attitude. Et ensuite, eh bien, ces saintes femmes, ces femmes généreuses, voyez, elles avaient le souci. On a dû l'ensevelir rapidement le vendredi saint. Il venait le coucher du soleil, commençait le grand sabbat, la grande fête solennelle de Pâques. On n'avait plus le droit de rien faire. Alors ces femmes généreuses sont allées acheter du baume et de tout ce qu'il fallait pour embaumer le corps de notre Seigneur. Et elles viennent au matin. Elles n'ont même pas pensé comment elles rouleraient la pierre tellement. Elles se disent en chemin, mais comment on va faire pour rouler cette pierre? On verra bien. Et en arrivant, la pierre était roulée. Et l'ange était assis, comme nous venons d'entendre dans cette lecture de l'Évangile. Et qui leur dit, qui leur annonce que Jésus est ressuscité, qu'il n'est plus ici. Qu'elles aillent annoncer ça aux apôtres. Que fit notre Seigneur dès qu'il ressuscita? Et bien sûr, il alla apparaître à notre Sainte Vierge. Quelle
qu'est-ce que ça a dû être cet instant? Notre-Dame qui a souffert pendant cette passion. Peut-être sommeillait-elle un peu. Et notre Seigneur qui lui apparaît plein de clarté, plein de lumière. Quand il dut se dire, on le saura au jugement dernier, on le saura dans le ciel. Et ces deux êtres qui ont tant souffert pour le salut des âmes. Et ensuite, c'est aux saintes femmes qu'il est apparu. Ces femmes généreuses, eh bien, elles ont été bien récompensées. Elles ont été courageuses de rester au pied de la croix. Malgré cet échec apparent, ou en tout cas naturel, de notre Seigneur, condamné comme un criminel sur la croix, elles étaient là, à recevoir les moqueries. Eh bien, notre Seigneur les récompense les premières. Et ensuite, elle court annoncer aux apôtres qui, eux, s'étaient barricadés dans le cénacle. Bien sûr, ils avaient peur des Juifs. Oh, ils ne devaient pas être très fiers et ni très heureux, ces pauvres apôtres. Ça a été terrible, ça a été un drame pour eux. C'est notre Seigneur qu'ils avaient suivi. Le voilà qui a été crucifié comme un criminel entre deux scélérats. On a préféré Barabbas. Et qui dira la joie des anges? Aussi, les anges se sont réjouis de ce triomphe de notre Seigneur. Eux qui ont certainement été peinés de voir comment leur maître, comment le roi du ciel a été traité. Celui qu'ils adorent, celui qui est le maître de l'univers, qui a été si humilié. Quelle joie ça a été pour eux. Et pourquoi? Pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu ressusciter? Quelles sont les raisons mystérieuses de ce miracle si grand de la résurrection? Eh bien, tout d'abord, bien pour honorer ce corps de Jésus qui avait tant souffert, qui a passé par tout ce que l'Église nous a fait revivre ces derniers jours. Avant-hier, ce divin Sauveur était humilié, méprisé, conspué, flagellé, couronné d'épines, tourné de ridicule, cruellement cloué à la croix entre ses deux scélérats. Puis il mourait sur son gibet et on l'ensevelissait à la hâte. Mais aujourd'hui, alors, quel changement! C'est un corps ressuscité, triomphant et pour jamais vainqueur de la mort. Il a remporté la victoire. Son corps de meurtrier méconnaissable qu'il était, lorsqu'il est devenu resplendissant. Désormais, il est impassible, il ne souffrira plus. C'est la qualité des corps glorieux. Son corps est subtil, agile, il passe au travers des murs, il est entré au cénacle, portes et fenêtres fermées. Aussi il se déplacera aussi rapidement que notre pensée peut se déplacer. Aussi notre Seigneur a voulu cette résurrection, et bien c'est pour affermir notre foi. Et la résurrection de notre Seigneur est le fondement et le triomphe de notre foi. Il est le maître de la vie, il la donne et il la reprend comme il veut. Il avait prédit cette résurrection, bien sûr, mais souvent les prédictions, souvent les prophéties, on les comprend que lorsqu'elles se réalisent. Cette résurrection est aussi l'argument principal et solide entre tous, par lesquels les apôtres ont prouvé que Jésus était Dieu. Ce n'est pas agréable d'aller prêcher quelqu'un mort sur la croix. Aller chez les païens, chez les romains, leur dire, on vient prêcher Jésus. Qui c'est ce Jésus? Mais oui, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Mais ce n'était pas très évident, hein. Alors il fallait ensuite passer à la résurrection pour montrer, oui, il est mort. On ne craint pas de le dire. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un échec. Mais il est ressuscité. De lui-même, personne ne l'a ressuscité. Il est sorti du tombeau de lui-même. Eh bien, c'est une preuve qu'il était Dieu. Mais pourquoi sa mort? Et alors il leur expliquait le pourquoi. C'est pour nous racheter de nos péchés, pour être punis à notre place, pour être châtiés, pour recevoir le châtiment que nous aurions mérité. Et si notre Seigneur est vraiment ressuscité, donc il est Dieu, sa religion est vraie, sa religion est celle de Dieu. Pas ses religions, sa religion, il n'y en a pas plusieurs. L'Église qu'il a fondée, elle est divine, c'est ce que Dieu a voulu. Et donc il n'y a pas d'autre moyen pour nous relier à Dieu, pour rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Église conciliaire, de plus en plus on essaye de... En disant, personne n'a été témoin de la résurrection de notre Seigneur. Bien sûr, personne ne l'a vu de sortir du tombeau. Mais est-ce que c'est une raison pour mettre en doute la résurrection? Alors on passe par ce biais-là. Personne ne l'a vu. Et non, notre Seigneur est ressuscité. Ailleurs, nous dit Saint Grégoire, l'infidélité de Thomas nous a plus servi que la foi des autres disciples. Car par la foi de Thomas, qui lui revient en touchant du doigt le corps de Jésus, tout doute se trouve chassé de notre cœur. Et cette résurrection, notre Seigneur l'a voulu aussi, pourra fortifier notre espérance, car nous aussi un jour nous sommes appelés à ressusciter. Si les pécheurs veulent comprendre et s'appliquer cette belle doctrine, que d'abord ils se convertissent, car ils ressusciteront aussi, mais leur résurrection ne sera pas pour la gloire. Ils ressusciteront en proie à un affreux et éternel désespoir. Non, pour nous, la résurrection, pour ceux, bien sûr, qui se veulent de Dieu, qui travaillent à leur sanctification, eh bien, la résurrection est un gage assuré que nous ressusciterons pour le ciel, pour l'éternité, avec un corps glorieux. Il nous l'a promis, notre Seigneur, et lui, il est fidèle dans ses promesses. Nous espérons donc notre propre résurrection par la vertu de la résurrection de notre Seigneur. Notre Seigneur, nous dit Saint Grégoire, a subi la mort pour que nous n'ayons pas peur de mourir. Il est ressuscité pour que nous ayons la confiance de ressusciter. Alors vivons désormais d'une manière digne, digne de Dieu, en faisant toutes choses ce qui lui est agréable. Imitons ces saintes femmes pour que nous n'ayons pas à souffrir et que nous puissions être sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout le mystère du Christ, eh bien, peut se résumer dans cette parole de Saint Paul. Il s'est humilié, s'étant fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Cela, nous l'avons répété souvent ces derniers jours. Et nous avons pu remarquer jusqu'à quel point il s'est abaissé. Il a touché le fond de l'humiliation. Aucun être sur la terre n'aura été humilié comme notre Seigneur. Il a choisi la mort du maudit. Comme le dit la Sainte Écriture, « Maledictus omnis qui pendet in ligno »« Maudit celui qui pend sur le bois ». Mais cet abîme d'ignominie et de souffrance dans lesquels notre Seigneur a bien voulu descendre était également des abîmes d'amour. Et c'est cet amour qui nous a mérité la miséricorde du Père, les grâces de salut et de sanctification. Mais aujourd'hui, soyons pleins de joie, car il est ressuscité, il vit pour Dieu, comme nous le dit Saint Paul. Il n'a plus désormais en lui que vie parfaite et glorieuse, sans infirmité. Iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur. Désormais, il ne meurt plus et la mort n'aura plus d'empire sur lui. Dans ses litanies, l'Église, lorsqu'elle nous parle de la résurrection de notre Seigneur, y ajoute ce qualificatif sainte. Per sanctam resurrectionem tuam, par votre sainte résurrection. Qu'est-ce que cela donc peut bien vouloir dire? Est-ce que tous les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont-ils pas saints? Et certainement. Lui-même, il est le saint par excellence, le saint des saints. Et nous venons de le proclamer dans le Gloria, tous solus sanctus. Tout est saint en lui. Personne n'a pu le convaincre de péché. Et pourquoi donc l'Église qualifie la résurrection de sainte? Eh bien parce que c'est dans ce mystère que se réalisent particulièrement les conditions de la sainteté. Parce que ce mystère met principalement en relief les éléments qui constituent essentiellement la sainteté humaine, laquelle trouve son modèle et sa source dans le Christ. Parce que si par toute sa vie, il est la voie, la lumière, s'il donne l'exemple de toutes les vertus compatibles avec sa divinité dans sa résurrection, le Christ est surtout l'exemplaire de la sainteté. À quoi donc pouvons-nous ramener la sainteté? Eh bien, la sainteté peut être ramenée à deux éléments. L'éloignement de tout péché comme premier élément. Détachement de toute créature. Et comme deuxième élément, l'appartenance totale et stable à Dieu. Or, ces deux éléments se trouvent particulièrement, comme je vous l'ai dit, il y a un degré très élevé dans cette résurrection de notre Seigneur. Bien que le Verbe incarné ait été durant toute son existence le Saint par excellence, il se révèle à nous surtout sous cet aspect avec une éblouissante clarté dans sa résurrection. La résurrection de notre Seigneur est le triomphe de la vie sur la mort, et le triomphe du céleste sur le terrestre, et le triomphe du divin sur l'humain. Il a prouvé à son Père combien il l'aimait en donnant sa vie pour les hommes. Maintenant, tout est expié. La justice est rétablie, l'amitié est rétablie entre les hommes et Dieu, l'œuvre de la rédemption est accomplie. L'Évangile ne nous dit rien de ces hommages d'adoration, d'amour et d'action de grâce que le Christ rendait à son Père. Mais saint Paul résume tout cela « vivit Deo ». Il vit pour Dieu, il vit pour son Père. Eh bien, c'est là le deuxième élément, la sanctification, l'adhésion à Dieu, l'appartenance, la consécration à Dieu. Il faut que nous vivions de cet homme nouveau, de cet homme régénéré par la grâce, et que ce vieil homme, cet homme naturel, cet homme mondain, cet homme humain, qui a les yeux rivés au sol, eh bien qu'il meure celui-là. Un religieux disait un jour, lorsque je suis entré au couvent, nous étions deux. Et maintenant, l'autre est mort. Eh bien, c'est la lutte continuelle entre ces deux. Et il faut que cet homme naturel, que cet homme mondain meure. Sinon, il nous enlèvera le bonheur éternel. Et notre Seigneur a prouvé par sa vie que c'est ainsi qu'il faut faire. Et saint Paul le rappelle dans son épître, ce vieux levain. Encore il représente ce vieil homme, cet homme déchu, cet homme vicié, cet homme porté vers le mal par les blessures du péché originel. Voilà. Soyons donc pleins de joie, de reconnaissance. Notre Seigneur a triomphé. Eh bien, si nous sommes avec lui, nous sommes sûrs de triompher aussi. C'est lui qui nous fera triompher. Donc, demandons au bon Dieu, demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui a vraiment suivi l'exemple de notre Seigneur, où l'on servira Dieu et on haïra Mammon, ou alors on préférera Mammon et on abandonnera Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.